la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.
Bonjour tout le monde. Petit problème de son. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle émission de Par le bout de la lorgnette. C'est la 30e aujourd'hui, elle est consacrée aux BD jeunesse. Pour en parler aujourd'hui, nous avons Nicolas.
Salut.
Pauline.
Salut.
Et Valérie.
Salut.
Alors, deux absents du coup aujourd'hui.
Non excusé,
1er avril en plus, voilà, ça tombe super bien. Héloïse quand même, à qui on fait un petit coucou, et Ludo, que vous retrouverez bientôt aussi également. Est-ce que tout le monde va bien ?
Eh bien, ça va, hein ?
Ouais, vous êtes motivé aujourd'hui ?
Toujours très très motivé. Bon. On a lu tout ça, c'est toujours des belles découvertes.
Ouais, alors comment voilà. Ça s'est passé ce retour en arrière, là, cette retombée en enfance ? Ça a été ?
Ouais, mais t'as raison de poser la question parce que on a vraiment des livres qui sont pour la très petite enfance, pour certains que j'ai lus moi. Et c'est vrai que la façon d'accrocher, on se pose toujours la question, est-ce que ça va plaire à ces petits et qu'est-ce qu'on en sort de ces bouquins finalement? Et c'est vrai qu'en étant d'un certain âge maintenant, c'est
plus pour toi.
je m'en doutais qu'elle allait dire ça. Et c'est toujours un peu délicat, voilà. Et je me dis, qu'est-ce qui peut passionner les petits? Parce que bon, moi en lisant ça, ça m'a pas quand même franchement botté quoi. Pas super intéressé. Derrière, il y a toujours un fond. Et c'est de se dire, voilà, qu'est-ce qui peut accrocher? Alors c'est vrai qu'on aborde dans ces livres aussi des thèmes sur la vie, la mort, les rencontres, l'amour. Enfin, il y a l'essentiel, mais c'est comment on va faire avec les enfants pour qu'on les accroche et que quelque part il y ait pas une morale, mais que quelque part ils en retirent quelque chose, parce qu'il y a quand même ce fond dans la littérature jeunesse qui est intéressant. Ça sert à élever les consciences quand même, hein, la littérature.
Oui, ce qu'on trouve aussi, mais sans que ce soit non plus pas une morale directe, parce que jusqu'à un certain âge, tu peux avoir des livres jeunesse où il y a vraiment une morale. Moi, j'en ai un vraiment pour les petits, c'est « Je ferai une colère si je veux ». Le sujet est donné, mais pour les un peu plus grands, pour faire passer des messages, il faut que ce soit un peu subliminal, sinon ça va pas les intéresser. Donc c'est tout le travail des auteurs et des dessinateurs d'être dans la subtilité du message, pour les un peu plus grands.
Alors c'est vrai que là, en plus, on a la particularité d'être sur de la BD pour les petits. Donc il y a le support image qui est essentiel aussi. Hein. Bon, il y a les bulles, il y a les textes, etc. Mais il y a quand même l'image et le traitement de l'image. Il s'avère qu'aujourd'hui, je trouve que dans l'image et l'imagerie, on a vraiment une palette de formes, de mise en scénario, de type de forme aussi de BD qui sont, il y a une richesse extraordinaire, ouais. Une explosion de richesse.
Mais justement, moi, parmi mes lectures, j'en ai découverte une de forme un peu graphique que je connaissais pas. Alors ça devrait sûrement exister depuis un petit moment, mais oui, voilà, c'était j'en parlerai tout à l'heure, mais des petits personnages un peu qui flottent dans les airs sans un réel fond, un sol très matérialisé, etc. Du coup, ça crée un peu une atmosphère qui est différente et une approche graphique que je pensais pas, en fait, qui serait forcément destinée aux plus jeunes, mais que voilà, je suis tombé un peu amoureux de ce dessin-là. Mais bon, j'en parlerai quand ce sera mon tour.
Mais raconte-nous ça maintenant.
Ah, ben si.
Qu'est-ce que t'es lancé ?
Pas de souci.
Ouais.
On va commencer par ça. C'est tout simplement, c'est les Kikwa. Alors, je sais pas si vous connaissez, il y en a plusieurs. Je vais vous faire passer le livre, regardez.
Kikwa en deux mots ?
Voilà.
Ou avec exactement. Un ki et un ka.
Non, c'est en deux mots. Donc, alors celui-ci, c'est les Kikwa et l'étrange sorcière tombée du ciel. Donc voilà, il y a forcément plusieurs livres différents qui parlent de thèmes différents. Mais celui-là était vraiment sympa. Alors c'est Laurent Rivelègue et Olivier Talec qui ont travaillé là-dessus. Et c'est Actes Sud Junior. Donc on est toujours dans les BD. Et alors, dans cette BD, les Kikouas, on retrouve six personnages principaux. On a Pétole, la tête brûlée, Boulard, le râleur, donc c'est une petite fille et un petit garçon qui sont accompagnés de leurs fidèles amis. Entre créatures et animaux, on a Raoul, le trouillard, Olive, l'artiste, Mixo, l'intello et Pamela, l'indécise. Donc six personnages auxquels viennent s'ajouter dans ce livre l'étrange sorcière tombée du ciel, Clara Poutre, et un autre que j'ai failli oublier, notre créature qui raffole des légumes, c'est le gumier siffleur. Mmh. Donc voilà, un univers assez particulier, ce groupe d'amis, tous différents. Dans ce groupe d'amis, il y a un artiste, Olive, qui peut en fait interférer et modifier tout ce qui l'entoure en dessinant, donc c'est aussi simple que ça. Alors pour citer juste deux exemples, par exemple, Olive peut créer toute une forêt entière ou dessiner des jambes à un légume pour qu'il puisse courir. Donc voilà, ça offre énormément de possibilités. C'est une palette, comme tu disais, qui est très large. Et dans cette BD, voilà, tout se base là-dessus. L'histoire se joue autour du fait qu'Olive voilà, puisse modifier l'environnement et l'arrivée inattendue de Clara Poutre, la sorcière, qui n'est qu'une apprentie. Et alors pour un petit descriptif, en fait, c'est ce que j'ai pu récupérer là sur... Sur le livre, leur imagination pardon, est sans limite, mais ils sont souvent dépassés par leur propre création et finissent invariablement par effacer leur dessin avant que l'aventure ne tourne à la catastrophe. Donc c'est plein de petites péripéties qui sont assez, assez rigolotes. Mmh. Les dessins, comme je disais, sont très intéressants. Et c'est parmi les trois livres que j'ai lus, celui que j'ai préféré, visuellement, graphiquement, j'ai vraiment tout de suite adoré. J'en avais pas vu, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, dès comme ça. Alors peut-être que ça existait déjà, mais je dis que j'en ai pas vu pour pas dire jamais. Mais voilà, il y a, comme je disais tout à l'heure, pas de sol réel, c'est moins matérialisé, ce qui fait que les personnages flottent un peu dans les airs, avec tout autour d'eux des éléments, des coups de crayon, des coups de crayon de couleurs différentes, mais très simplistes, qui rappellent les dessins d'enfants. Avec des arbres bleus, les fleurs, c'est une tige, donc un petit bout de crayon avec un rond gribouillé, c'est vraiment très simpliste. Bon, dit comme ça, ça donne peut-être pas trop envie, mais vraiment, il y a un contraste qui est vraiment bien fait, je trouve, qui est extrêmement bien fait. On sent bien le rapport entre les dessins enfantins et l'assurance et la précision d'une mère adulte experte, quoi, tout simplement, en dessin. Et voilà, c'est vraiment ce que j'ai aimé. Et bien entendu, les six personnages principaux ressortent énormément. Ils sont bien plus précis en termes de finition. Ils sont vraiment très jolis, très mignons. Moi, j'ai trouvé. Ils sont attachants. On arrive bien à décerner leur expression. Et ils sont vraiment, vraiment sympathiques.
Ouais, vraiment. Puis ça reflète vraiment l'imaginaire des enfants avec leurs petites aventures qui s'inventent entre copains.
Exactement. Voilà. Donc après, tout se joue autour de ça. Des fois, il a un peu des regrets ou remords en disant mince, j'aurais pu dessiner telle ou telle chose.
Donc
il y a un passage. Où il efface,
ouais.
Exactement. Voilà, donc il peut se sauver, mais aussi, c'est ce qui arrive très souvent, il se crée des aventures, des péripéties auxquelles ils doivent après se sortir tous ensemble. Au final, après, ils s'entraident bien entendu les uns des autres. Il y avait un petit passage que j'avais bien aimé, c'est à l'arrivée de la sorcière, quand elle tombe du ciel, où donc ils ont chacun leur petite expression. Alors, je sais plus ce que c'était exactement, tu l'as juste au sur le post-it, juste avant, là. Ici, donc on a en fait les personnages, si tu veux lire les premières.
Elle est tombée d'une branche. À mon avis, elle est tombée de beaucoup plus haut. Tu crois qu'elle est tombée d'un avion ? C'est peut-être trop tard pour dessiner un parachute.
Voilà, donc Olive, l'artiste, qui se dit, mince, j'aurais peut-être pu lui créer un parachute pour amortir la chute. Non, voilà, enfin bref, je voulais pas trop citer de choses, sinon on perd un peu l'intérêt après pour le livre.
Et elle s'appelle Clara Poutre.
Clara Poutre, voilà. Voilà, qui se balade avec son balai magique, mais qui a disparu puisqu'elle est entre les mains du gumier siffleur.
Ah.
Et du coup, elle dit, personne ne croit que je suis une vraie sorcière.
Voilà.
Et donc, elle en transforme un en courgette, c'est ça ?
Exactement.
Voilà. Exactement. Mais c'est assez drôle. Hein,
il peut se faire enlever par le gumier, après, s'il est courgette. Hein.
Voilà.
Oh, ouais, les jambes il ne veut, pas, il veut pas rester courgette, il veut redevenir lapin.
Voilà.
Non, moi, je ne veux pas rester une courgette. Hein, ça fait penser à autre chose ?
Du tout, c'est bon.
Non, c'est assez drôle. Alors, on parle de BD et en même temps, c'est que des pages avec des dessins, comme fait au fusain ou au crayon de couleur. Donc, c'est assez joli. Les petits personnages sont vraiment super mimi. Sur page blanche, écrit en noir avec des couleurs assez pastel, Voilà, c'est des jolis dessins. Par contre, il n'y a pas les fenêtres et le storyboard de la BD.
Pas habituel,
non. Voilà, on est vraiment sur plutôt un livre de littérature jeunesse classique. Hein.
Ce que disait Corentin, ça donne au personnage l'impression de flotter, donc ça fait appel à l'imaginaire.
Ah ouais, mais c'est vrai que c'est un beau petit bouquin, ouais, très bien vu.
Mais voilà, graphiquement, c'était très intéressant. Les bulles de dialogue ne sont pas nettement marquées. On voit voilà, des petits dialogues qui sont vraiment propres
par
à
contre,
chacun.
Par contre, on le destine à quel âge, un petit livre comme ça?
On le destine?
Ouais, mais il est destiné pour quel tranche d'âge? Parce que là, les enfants ne peuvent pas le lire. Hein,
oui, ça lira des tout petits, voilà. Non
c'est, ces petites enfants, c'est dès 3 ans.
Ouais.
Mais voilà. Après, dans celui-là, il y a forcément l'esprit, être courageux, etc. La différence entre nous, on n'en tient pas compte, etc., etc. Mais en termes d'apprentissage, etc., il n'y a quand même pas grand-chose. C'est plus pour se divertir. C'est plus des petites scènes rigolotes. Il y a juste à la fin où le lapin, en fait, qui a été transformé en carotte, en courgette, quand il redevient lapin, il reste, il garde la couleur verte, en fait. Donc, il est un peu déçu et voilà, un peu désorienté.
C'est son héritage.
Et la seule truc qu'on a, c'est une petite histoire sur l'arrivée de la courgette en Europe, du coup. Et son origine, donc il a été planté aux États-Unis, etc., etc.
D'accord. Non, voilà, le gars, il est fan de courgettes.
Voilà. Oui, il y a un truc là, courgettes au fil.
Donc c'est un peu la seule chose qu'on apprend.
Un cucurbitacé.
C'était après avoir écouté les courges de Nasreddin dont tu avais parlé l'autre fois. C'est pour ça. Ça l'a inspiré.
Donc voilà, oui, pour le mien, les Kikwa qui étaient très intéressants.
Et c'est une série ou il n'y a que celui-là?
Non, c'est une série, mais si je ne dis pas de bêtises, qui est un peu au début. Enfin. Il n'y en a pas eu encore énormément, j'en ai retrouvé que deux ou trois, je crois.
Les Kikwa à la plage,
d'accord.
Les Kikwa font n'importe quoi.
Après la liste, ça peut aller loin.
Très bien. Vous voulez que je vous parle de Canerva?
Et pourquoi Allez. Pas
Alors Canerva, en fait, c'est une trilogie hein, de Tikkanen Petteri, qui est un auteur finlandais. Donc c'est une. Alors là, on est vraiment sur une BD. C'est pour les beaucoup plus grands. Hein. On est plus autour de 8-9 ans. Voilà. Que dire de cet auteur Alors, il aborde quand même la notion dans ce livre-là qui s'appelle Canerva sur le pont, puisque c'est une trilogie. Il y a eu donc le premier dont je me souviens plus le nom. Que je vais vous retrouver tout de suite, Canerva de l'autre côté du lac, voilà. Et celui-là, Canerva sur le pont.
C'est le deuxième, donc.
C'est le deuxième, voilà. Et qui traite de la mort, voilà. Alors, il traite ça avec délicatesse. Donc, il a choisi une BD graphiquement. C'est des dessins qui sont assez finis, avec un univers graphique assez beau, en monochromie. Violette, voilà. Le premier était en bleu ciel, celui-là est vraiment couleur violette. Donc c'est une monochromie, c'est-à-dire que il n'y a pas de variation de couleur, tout est dans le même ton. Violette, alors c'est vrai que ça fait un peu terne, peut-être par rapport à la thématique abordée. Je pense qu'il y a eu ce choix-là qui a été fait. Je ne sais pas s'il y a un lien avec le clergé, le violet, tout ça. Bon, j'en sais rien.
C'est tout à fait d'actualité.
Voilà. Alors lui, il se place au niveau de son héroïne. C'est-à-dire qu'il fait parler cette petite fille, qui est Canerva, qui est une petite copine, une maman, et puis une grand-mère, dont elle est assez fan. Cette grand-mère est en fin de vie, et elle veut accompagner cette grand-mère. Elle veut essayer de la sauver, de l'arracher des griffes de la mort. Et donc, elle imagine plein de subterfuges. Voilà. Elle lui fait croire que, qu'elle peut toujours aller pêcher avec elle, etc. Donc, elle est très maligne et elle va essayer un petit peu de l'amener. Donc, elle va, par exemple, la sortir la nuit et l'amener sur un pont pour la faire pêcher parce que la grand-mère, elle est souvent à la pêche. Donc, on retrouve quand même l'univers finlandais quand même. Hein. Ça fait un peu glacial, il y a de la neige. Voilà. On est quand même dans un univers comme ça, Finlande, avec des dessins qui sont très explicites, assez ronds. C'est-à-dire que ces personnages sont assez doux. Hein, à part la grand-mère qui est un peu plus anguleuse sur le dessin parce qu'on sent qu'elle est... Bah, qu'elle a moins de vie et qu'elle est un peu plus décharnée, mais sinon, c'est des formats très ronds. Voilà. Et donc,
Non, juste quand j'ai vu du coup deux trois petites images, ça avait l'air d'être proche du manga un peu.
Alors oui, c'est tout à fait l'analogie que j'aurais faite, c'est-à-dire que les personnages en fait, et notamment la maman, on pense que c'est une geisha japonaise quoi. Enfin geisha, d'accord. Je sais pas, mais voilà. Et il y a des allusions à la vie de la maman, dont je tairai l'histoire, mais un peu particulière. Et cette petite fille donc qui vit avec cette maman et cette grand-mère et qui essaye un petit peu, alors c'est fait sous la forme de différents chapitres, donc il y a une montée en puissance jusqu'à la fin, mais bien sûr qui est le décès de la grand-mère, donc c'est pas très drôle, voilà. Elle se pose la question, est-ce qu'elle est morte mamie à plusieurs reprises, en fait non, elle est hospitalisée, elle va pas bien, donc c'est cette appréhension peut-être que portent les enfants quand les adultes parlent de la fin de vie de leurs proches. Mmh. Voilà. Et comment ces enfants se raccrochent. Donc le point de vue de l'auteur, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut faire quand on est enfant. Et elle, en fait, elle a hérité de sa grand-mère un monde imaginaire considérable où elle invente des tas de situations avec sa petite copine. Et elle essaye d'inventer un univers dans lequel sa grand-mère pourra survivre. Donc c'est un peu onirique, c'est assez beau à lire. Hein. C'est un joli petit bouquin.
Et, voilà. Et donc pour l'enfant, en fait, c'est une première approche un petit peu à tout ce qui va arriver au décès. Donc forcément, les grands-parents, en général, c'est en premier, etc. C'est une approche, c'est... essayer de, tu parlais d'un peu anxiété, d'appréhension qu'on peut avoir.
Oui, de vaincre ça, peut-être. Enfin, en tout cas, de vaincre, en tout cas, de l'accompagner, quoi.
Voilà.
Voilà.
Essayer d'éviter les tabous, peut-être aussi, qu'il n'y ait pas de...
Oui, parce que là vraiment, la grand-mère disparaît, et donc elle va jusqu'à l'embrasser dans son cercueil, à lui mettre des petits éléments, parce qu'elle en aura besoin, elle, plus que... Voilà. Ouais. Donc il y a vraiment... un accompagnement, c'est-à-dire il y a une démystification aussi. Mmh. Ouais. Voilà, on ne dit pas mamie, elle part au ciel, quoi. Mmh. Voilà, je te le donne, tu en auras plus besoin que moi. Et le cercueil se referme et la voiture emmène. Et là, ils font une espèce d'adieu avec, avec des objets. Donc c'est assez étonnant en fait qu'on aille aussi loin sur un livre de jeunesse, je trouve.
Ouais, surtout que c'est pas clairement marqué, c'est pas comme les Dolto où il y a marqué Dolto, mes parents divorcent, Dolto, je fais pipi au lit. Enfin, c'est ça, il y a rien qui dit que ça va parler de ce sujet-là quand tu regardes la couverture. Ou tu aurais presque envie de l'acheter juste parce qu'elle est la petite, elle est toute kawaii, elle est toute mignonne et que ça a l'air à tendre quoi comme couverture.
Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Moi, j'étais assez étonné, assez pris par ce petit bouquin, là, hier soir. Mmh. J'ai trouvé que c'est pas mal. C'est un bon petit bouquin.
Donc c'est pour ça que tu disais 8-9 ans. Il faut 8, déjà une petite approche et compréhension de la mort, de l'au-delà, un peu tout ça, quoi.
C'est ça. Et puis, c'est des questions qui arrivent souvent à cet âge-là. Alors, il y a des enfants beaucoup plus précoces qui parlent de ça à 5-6 ans, qui prennent conscience de ça avec la mort du petit chat, du petit chien, du lapin... voilà, mais c'est plutôt une conscience, je pense, chez les enfants du manque, tu vois, qui se précise vers cette période-là, quoi, où ils se posent vraiment beaucoup de questions existentielles. Donc c'est une façon de l'aborder intéressante. On peut parler de tout, il faut trouver les mots et les images, quoi. Et c'est intéressant.
Voilà, donc c'est pour prendre conscience et un peu apaiser un peu les esprits par rapport à la mort du coup de la grand-mère, mais d'accord.
Voilà, donc...
à la mort de façon plus générale,
et,
du coup. Ouais.
Voilà, et donc c'est chez les Requins Marteaux, hein, voilà, édition. Et c'est donc, je le répète, Petteri Tikkanen, donc c'est un Finlandais qui fait ça, et il y en aura un troisième.
Mais vraiment, ouais, la BD, alors, très sympa à lire aussi. Bon, le sujet est un peu délicat, mais les dessins, ouais, sont...
C'est hyper original, c'est... Ouais, c'est très très joli.
Super, mais merci Nicolas. Qui veut enchaîner, Pauline Valérie ?
Eh bien, écoute, je peux y aller ?
Oui, vas-y.
Ouais ?
Je te donne le totem de la parole, tu peux.
Merci Valérie. Mais du coup, on parlait de retomber en enfance. Et ben moi, pour le coup, je suis vraiment retombée en enfance parce que j'ai lu une BD qui s'appelle « Chlorophylle et le monstre des trois sources » aux éditions du Lombard par René Haussmann et Jean-Luc Cornette. Alors, je sais pas si Chlorophylle, vous, ça vous dit quelque chose ?
Oui, ça me parle.
Parce que moi quand Héloïse m'a donné le bouquin, je me suis dit Chlorophylle, la petite souris, ça me parle, mais les dessins me disaient rien. Et j'ai recherché, en fait, j'ai fait des petites recherches, et effectivement, donc il existe bien une série de BD qui s'appelle Chlorophylle. Ouais, j'ai sorti une petite image pour réveiller les chroniqueurs, ouais, rappeler des vieux souvenirs. Donc,
t'es trop. T'étais grand quand c'est sorti. T'es trop loin pour voir l'image, je voulais dire.
Ça essaie de se rattraper là.
Mais Héloïse et Ludo sont pas là, faut bien qu'il y ait un vilain. Alors
attends d'avoir la date, tu verras. Donc voilà, c'est une BD.
C'est moi qui vais prendre un coup de vieux. Ah, mais tu connais.
Ouais, parce que ça a été créé par Raymond Machereau en 54. Donc,
on y revient.
T'étais même pas né, Nico.
Voilà. Donc, je sais pas si vous vous rappelez de cette petite souris, mais c'est l'histoire, voilà, de ce petit lairon. C'est un lairon. Pour moi, ça a toujours été une souris, mais bon, il s'avère que c'est un lairon. Avec ses yeux, on avait l'impression qu'il avait un peu les yeux au beurre noir et de son petit ami, pour le coup, la souris, minimum, avec lequel il luttait contre le redoutable anthracite, le chef des rats noirs. Donc, voilà, le chlorophylle dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est l'idée vient de l'ancien chlorophylle, mais c'est vraiment un hommage à ce petit rongeur qui avait été créé par Raymond Machereau et qui est un ami de René Haussmann, donc le dessinateur de notre chlorophylle. Donc là, l'album, il s'ouvre sur une première planche un peu d'introduction où on rencontre Razor le blaireau et son ami Cactus, le hérisson. Et ils sont à la recherche de plantes médicinales pour les rapporter à Katana, le papa de Razor, qui est un peu, voilà, qui soigne, qui a un petit côté alchimiste. Et tout à coup, Cactus se met à paniquer. Et là, il hurle, mais il y a une voix. Et tout se fige. Voilà.
Que se passe-t-il ?
Que se passe-t-il ?
C'est Ratus le Noir.
Ah, je ne sais pas. Deuxième page, on passe du coup au petit bosquet, le lieu de vie de Chlorophylle et de ses amis. Et donc, bon, bah, là-bas, la vie s'écoule très paisiblement, tout en douceur. Et on a même minimum l'ami de Chlorophylle, qui est un peu rêveur ce matin. Il est un peu, voilà, dans la lune, un peu fleur bleue. Même Chlorophylle, avec qui il part régulièrement à l'aventure, il n'arrive pas à sortir de ses rêveries. Et en fait, voilà, on apprend, il y a une petite nouvelle dans la forêt, une petite souris qui vient de la ville et qui a décidé de s'installer à la campagne. Donc cette petite souris, c'est Particule, et elle est vraiment très très jolie. Donc Minimum s'attelle à faire la connaissance de Particule. Excusez-moi.
C'est Nico qui est en train de préparer sa rime en hule. Et oui. Il faisait des signes non, non, non.
Surtout que là, on est vraiment pour les petits enfants.
Voilà, c'est pour ça, donc
c'est vraiment
s'il te plaît,
très
Nico.
Mignon. Donc on va retenir la rime en hule.
Il ne faudrait pas que ce soit ridicule. Hein.
Oui, j'avais bien l'impression que c'était celle-ci, non?
Non, c'était Canicule.
Ah!
Voilà, c'était Canicule.
D'accord. Bien vu. Excuse-moi d'avoir douté de ton verbe.
De sa bienveillance.
C'est ça.
Vous êtes abominable.
Donc, Particule.
Voilà, Particule et Minimum. Donc,
mais pourquoi,
Minimum.
Mais pourquoi Particule? Parce qu'il y a de la ville, du coup, il y a du gaz carbonique, tout ça?
Alors ça, je ne saurais pas te dire.
Ah oui, ou alors elle a un Particule.
Elle ne me semblait pas bien noble. Ah. Plutôt classique, une jeune fille de la ville.
Bon, mais elle est mignonne. D'accord.
Oui, ah, elle
déjà,
est mignonne comme
déjà,
tout.
Il fantasme ouais,
comme ouais, elle est adorable. Ouais. Et Minimum, il fait tout pour, voilà, pour rentrer dans ses petits papiers. Et du coup, un matin, il va chez elle pour l'emmener en promenade. Et là, il arrive à la maison. La maison est dans tous les sens. Tout est cassé. Particule est introuvable. Alors, Minimum rameute tous les amis, Chlorophylle, tous les animaux de la forêt pour partir à la recherche de Particules. Alors, en chemin, ils vont trouver des branches écrasées, un morceau de la petite robe blanche en soie de Particules. Donc, ils sont très inquiets. Et là, nos petits amis finissent par arriver devant une grotte. Elle est sombre, elle fait vraiment très peur. Et finalement, bah, elle doit bien être habitée par un monstre. Donc, la pauvre Particule, elle est prisonnière là-dedans. Et ils découvrent qu'en fait, ils sont chez Katana, le blaireau. Voilà, le fameux papa de notre petit blaireau du début.
Le chaman.
Voilà, le chaman, qui a l'air bien monstrueux, mais finalement, non. L'histoire,
c'est
pas celle qu'on croyait.
C'est le blaireau qui a pécho Particule. Quel blaireau.
Comme quoi, on a tous nos chances, au final.
Eh bien, vous allez voir, c'est même pas le blaireau. Ah. Et oui, Katana finit par avouer que bon, bah, c'est pas lui le monstre. Ce qui s'est passé au début, c'est que Razor et son ami Cactus se sont fait percuter par une voiture. Katana, il veut pas du tout accepter la mort de son fils et de son copain. Donc un peu en Docteur Frankenstein, il nous fait un assemblage, c'est très particulier. Là, il y a un tournant particulier dans l'histoire.
Oui. Là, c'est en train de partir n'importe où.
Oui, oui, je vous le dis, c'est très étonnant. Il nous assemble donc
Katana,
Cactus
et
Razor pour créer Kaxor. Kaxor, voilà. Kaxor est très très laid. Tout le monde a peur de lui, donc il sort jamais de sa grotte. Mais quand il a vu la petite particule, il s'est dit, je veux que ce soit mon amie. Elle est jolie, elle est merveilleuse. J'en veux comme mon amie. Mais évidemment, c'est pas si simple. Et du coup, par crainte qu'on lui reprenne son amie, il s'est enfui avec elle. Ah voilà. Je ne vous raconte pas le reste.
Il l'a kidnappé, quoi.
Il l'a kidnappé, ça. Voilà.
Mais c'est horrible, quand même.
C'était très, très particulier parce que ça va très vite.
Mais c'est quoi le fond
plus.
De ce truc
Alors, le fond.
Tu vois, mon petit, je vais te raconter une histoire, ça risque de t'arriver.
Voilà.
Tu vas finir dans une grotte avec un vieux salopard qui va te kidnapper.
Très franchement,
il s'appelle Kaxor, il a quatre oreilles.
Ah, puis Kaxor, je peux vous dire qu'il est absolument monstrueux.
Putain, ça a l'air tout mignon quand on voit la couverture. Ça a l'air tout bucolique, tout adorable.
Alors, pour ceux qui ont lu Chlorophylle.
Oui.
Voilà, là pour le coup, c'est vraiment un hommage à Chlorophylle. Mm-hmm. Je sais pas si c'est vraiment un livre pour les enfants parce que bon déjà, je vais vous parler peut-être des dessins un peu, c'est pas du tout pour ceux qui s'attendent à des dessins style Chlorophylle, pour ceux qui connaissent. Non, on est complètement dans un dessin complètement différent, il a pas voulu imiter Machereau. On avait avant des couleurs très vives, très très festive. Là, c'est très doux. C'est, je pense, de l'aquarelle. Les tons sont très naturels. Mais le dessin, par contre, est très beau. Ça fait très campagne. C'est très, très joli. Mais donc, on est là, différent de Chlorophylle. Mais dans l'histoire, on est vraiment... On retourne comme quand on était petit et qu'on lisait les BD de Chlorophylle. C'est l'aventure dans les bois... je me rends compte que le scénario il est très étonnant, mais on a ce côté très simple, presque naïf, mais très délicat du Chlorophylle qu'on connaît. Oui, dans les dessins, c'est très étonnant.
C'est vrai, c'est délicat, c'est grandes dents pointues qui bavent. C'est Kaxor.
C'est Kaxor, oui, il est censé faire peur.
On dirait Ludo. Quoi.
Ça, c'est quand il est mal luné, là. Quand il est en colère.
Non, mais quand il a pécho la myxomatose.
Ah oui, ça fait la myxomatose. Ça te rappelle pas en faisant des trucs avec les lapins, ça, la myxomatose?
Si.
C'est Yapa qui l'a trouvé le lapin. Non? Je comprends
attention.
Pas. Mais ils ont dû se contaminer en...
On est en jeunesse.
C'est ça. Oui, maintenant, Chlorophylle avec ce grand dedans.
Et l'univers, ça fait un peu fantastique quand même.
Hein.
C'est assez...
Je pense que c'est pas vraiment destiné aux enfants. Même si c'est très naïf. Je pense que c'est vraiment l'hommage à Chlorophylle dans l'histoire.
Elle nous montre une image en même temps.
Oui, voilà.
Elle est un peu naïve quand même, particule, non ?
Je ne vous raconte pas la fin, elle n'est pas naïve. Non. Au contraire, elle est absolument merveilleuse, particule.
Okay.
Non, c'est une belle histoire, où tout est bien qui finit bien.
Les dessins sont assez trash, pas trash, mais
et ouais,
assez...
Et avec un fond super doux,
oui,
bizarrement.
Mais oui, à la fois, c'est très très doux.
Ouais,
c'est très
particulier. Hein.
Ouais.
Particulier.
Mais je pense que il faut le prendre...
Ça va, ça va le super bien. Non mais on essaie de se mettre au niveau.
Héloïse et Ludo revenez.
On secours. Non mais en même temps tu trouves pas ça bizarre? Ils nous ont fini tous ces bouquins, on les a lus quoi. Ils sont pas là.
C'est ça.
En fait c'est une vraie blague non?
Je pense qu'ils nous font une vraie poisson.
Ah mon livre
en fait.
Suivant c'est pas une blague moi, par contre.
Parce que moi c'est que des blagues que j'ai presque.
C'est vrai. Bon alors vas-y présente.
Je sais pas si elle a fini de parler de Chlorophylle.
Oui j'ai fini. Non je pense que c'est un livre à part. C'est pas pour les enfants.
C'est
un livre particulier. Feuilletez-le et dites-vous est-ce que ça va me plaire mais.
Ouais.
Voilà je sais pas trop le conseiller. À découvrir, mais voilà.
Ouais.
À feuilleter avant, quand même.
Ouais, c'est ça. Avant de l'offrir. Pourquoi tu me regardes comme ça, Nico ?
À Simone, c'est à toi.
Tu veux que je te dise ? Allez, moi je vais commettre le crime de lèse-majesté. J'avais annoncé pour la première fois depuis 30 émissions, je vais avoir une critique négative sur un livre. Et j'ai pas voulu le changer parce que je me suis dit tant pis, il faut savoir de temps en temps dire ce qui ne plaît pas. J'ai choisi le livre juste à cause du prénom de l'auteur, parce que comme il s'appelait comme mon fils, j'ai dit ça peut être que super. Non, c'est comme les enfants, c'est pas tous les jours super. Non, alors ça s'appelle Walker Bean, c'est l'insubmersible, c'est l'auteur, donc c'est Aaron Renier. C'est une super histoire, c'est une super aventure, mais alors les dessins, mais j'y arrive pas. Je suis.
Pourquoi ?
C'est les émotions partagées par ce petit Walker Bean. C'est un petit blondinet aux grosses joues. Et je trouve qu'il a aucune. Je sais pas, ouais, il me fait rien ressentir, ce petit gamin. Et comme c'est le héros de la BD, ça me gênait. Et j'adorais l'histoire. L'histoire est super, en fait. Je vous la décris vite fait. C'est au fin fond de l'océan. Juste après, à droite des îles de la Mangue, il y a une faille. Dans cette faille, il y a des créatures plus dangereuses les unes que les autres. Et là, au milieu de ces créatures, vivent deux sœurs sirènes sorcières cordes homard. Vous voyez le genre ? Ça fout la trouille. Ces sœurs, en fait, elles gardent les crânes. Elles ont fait comme une espèce d'hôtel autour de... Enfin, dans leur fond. Et dans ces crânes sont gardés tous les secrets, et notamment des secrets style l'Atlantide, des choses comme ça. Et c'est ces crânes-là qui maintiennent le savoir, la connaissance. Donc, cette histoire-là, de ces deux sœurs, mi-crabe, mi-homard, corps de sorcière sirène, Walker Bean, il l'entend de son grand-père, qui est un grand aventurier. Et il a toujours plein d'histoires à raconter, donc il admire vraiment son grand-père, contrairement à son père, qui est un petit con de lieutenant-sergent ridicule. Et en fait, son grand-père, un jour, rentre d'excursion avec, dans un sac, un des crânes qu'il a réussi à aller voler aux sœurs sirènes sorcières homard tête de con. Parce qu'elles ont vraiment des têtes horribles. Et son père, en fait, en revenant avec ce crâne, tombe malade juste après l'avoir regardé. C'est puisqu'il est, voilà, une espèce de malédiction. Et ces crânes, en fait, il est dit, il est répété sans arrêt que seul quelqu'un au sang pur et courageux pourra le regarder sans défaillir. Mais évidemment, il n'y a personne qui y arrive. Et donc le crâne donc est volé parce que ben forcément il y a des gens cupides qui le veulent, et Walker Bean veut absolument récupérer ce crâne pour aller le rejeter dans les abysses parce qu'il est convaincu que c'est ça qui a rendu son grand-père malade, et il veut le rendre aux sœurs homard corps de sorcière sirène. Voilà. Donc l'aventure est géniale parce qu'il part, il vit des aventures super. Le bateau dans lequel il embarque, il est somptueux. Les sales créatures, là, les deux sœurs sorcières, sirènes, cordeaux, homards, sont vraiment bien faites. Mais alors, j'arrivais pas à rentrer dans l'histoire à cause du dessin de Walker Bean. Il y a par moments, le premier soir où je l'ai lu, je me suis endormie en même temps que je le lisais. Et je me suis endormie avec l'image d'un petit gamin qui souriait. Et quand je me suis levée, j'ai rouvert le livre. J'ai dit, mais non, mais il était en colère. Pourquoi il l'a dessiné en train de sourire ? Enfin, vraiment, l'émotion par le personnage m'a gâché la BD. Alors que l'histoire est absolument fantastique. Parce que c'est vraiment... Il vit une sacrée super aventure. Oui, puis il découvre plein de choses.
Oui, c'est une sacrée histoire. Il y a combien ? Il y a 150 ou 200 pages,
quoi. Il est assez long. Ouais, c'est... Alors d'habitude, quand on lit sur le livre jeunesse, je fais toujours tester sur mes enfants. Mais là, j'ai même pas eu envie, en fait, parce que je me suis dit, l'histoire est super, mais le dessin est pas, donne pas envie. Enfin, moi,
c'est
me donnait pas
le
envie.
Le dessin est très particulier. Hein, le dessin est très particulier. Il est à la fois naïf, il est extrêmement fourni. Il y a énormément de couleurs. Ouais. Il y a beaucoup de choses. Il est un peu, par moments, un peu... Enfin, là, dans les impressions qu'on a vues. Il est assez trash quand même. Hein. Ouais. Les sorcières, elles sont assez...
Elles sont dégueulasses. Elles sont bien comme elles sont décrites, en fait, quand le grand-père les décrit. Et il y a des... et c'est ça, en fait, je trouve qu'il représente bien tout ce qui va être matériel. Par exemple, il y a une espèce de... Il communique avec son grand-père par une sorte de bouteille magique, en fait. Une bouteille dans laquelle il met les messages et qui va rejoindre son grand-père. Son grand-père lui répond et ça lui renvoie la bouteille sur le navire sur lequel il est emprisonné. Et là, par exemple, cette bouteille, rien qu'en la voyant, on sait qu'elle est magique, on sait qu'il va se passer des trucs. Et je trouve que l'auteur, il est super fort sur les détails, sur les bateaux, sur plein de choses. Mais alors, sur les visages des personnages, j'accroche pas du tout.
L'expression, du coup, colle pas forcément au dialogue, on se perd un peu. Ouais.
Voilà, ça m'éclate pas. Après, voilà, là, j'ai ouvert sur une page, il y a une double page, en fait, une espèce d'Oué Charlie Géant, qui est par contre super sympa, parce qu'il y a plein de petits détails très hilarants, qui font appel à des connaissances historiques qui sont chouettes.
Surtout avec... ce personnage-là.
Voilà, oui, il y a Captain
faisait,
Haddock. Ouais.
Voilà, c'est, mais ouais. En fait, j'attendais, ça me faisait penser un petit peu à Tintin quand même, les aventures,
ouais,
les dessins. Alors ouais. C'est vrai que pas sur toutes les pages, puisqu'on dirait qu'il y a... Je sais pas,
ouais,
c'est pas forcément
pas à...
le même suivi du début à la fin, ou je
voilà.
sais pas trop.
Et comme disait Nico, tu vas passer d'une image super naïve à des choses beaucoup plus travaillées. Mais c'est vraiment dans la description, je trouve qu'il est fort. Bon, l'histoire, elle est fantastique. Enfin, il crée des pour se sortir du pétrin où ils se sont mis. Il fait la connaissance de deux personnes. Ils inventent des choses, lui notamment grâce à son grand-père qui a été explorateur et qui lui a appris plein de choses. Il se sort de ces situations, mais punaise, ça gâche. Et je râle parce que c'est vraiment sans ce dessin-là, ça aurait été un coup de cœur comme les Royaumes du Nord ou les Carnets de cerises qui sont des BD jeunesse que je trouve absolument ouais. génial. Ben là, le dessin, bouef, fait. Que voilà, j'y arrive pas. Alors, je lirai peut-être le 2, enfin la suite, pour savoir ce qui se passe, mais c'est vraiment pour dire voilà, je veux savoir qu'est-ce qui se passe et non pas je vais avoir le plaisir de relire la BD de Walker Bean.
Voilà. Et est-ce que ça arrive, ça, justement, de éventuellement reprendre le scénario et changer toutes les illustrations ? Il y a des gens peut-être qui se penchent dessus ou.
J'sais pas.
C'est jamais tout. Arrivé, non, ouais.
Non, je sais pas. Non.
Parce que ça,
d'après oui, ce
que
oui,
tu
là,
dis...
Oui,
le chlorophylle.
L'hommage à chlorophylle.
Ouais. Ouais,
le chlorophylle
là, c'est,
de Pauline. Ah, je sais pas.
C'est plus un hommage, là. C'était plus dans l'idée de, en fait, remasteriser ce bouquin. Parce que, comme tu dis, l'histoire, elle est super intéressante. Ouais. Et c'est dommage que ça colle pas avec...
Après,
avec
le mettre en livre, hein, sinon, après, ça peut
être... Oui, ça ferait un bon roman.
Ouais, ouais, je pense qu'il y a de quoi faire, oui. Après, tu rentres dans le roman de style... Ah oui, j'ai perdu son nom, ça y est. Stevenson, enfin, c'est les voyages,
l'aventure, les trucs.
Avec en plus de l'imaginaire, ça peut bien prendre, enfin, puisque là, on est sur les enfants, mais je ne sais pas, après, les auteurs, enfin, en même temps, lui, il est auteur et dessinateur, donc je ne suis pas sûre qu'il apprécie trop que j'envoie un email en lui disant, bon, écoute, attends, dessin, c'est pas génial.
Il y aura un
vente
top 2.
Oui, il y a une suite qui est attendue, ouais, tu restes sur ta fin quand même, là, c'est... Mais c'est ouais.
Je pense que ça peut attirer des enfants qui ont cette envie de fantastique et d'histoire dans l'histoire de avec un imaginaire graphique qui est énorme quoi.
Ouais, mais je pense que ça peut plaire.
Il y a énormément de choses à voir. Hein.
Ouais. Oui, parce qu'il y a beaucoup de détails.
Il y a énormément de détails quoi.
Ah, par contre, puis il est long. Hein. Enfin, moi, en tant qu'adulte, bon, j'ai pas lu que ça le soir parce que je voulais diversifier mes lectures, mais. Je pense qu'un enfant, il ne le lit pas en 3 jours. Enfin,
il va y passer beaucoup
de temps. Après, je ne suis pas...
Ce qu'on peut retenir, c'est quand même une histoire qui est assez complexe. Hein,
ouais. Oui, et puis il faut suivre, hein, parce que ça fait appel à pas mal de choses. Et y a des flashbacks par rapport à des petits détails, des fois du passé, sur les éléments familiaux, les rencontres, les choses comme ça. Donc, il faut... C'est pas Ariol, tu vois, où c'est à chaque page, t'as une nouvelle histoire.
Ouais.
Voilà.
Merci.
C'était pour la transition. Ouais.
Ariol, mais où est Pétula ?
J'adore Ariol.
Alors, Ariol, ça fait partie de la série Mes grandes histoires, chez BD Kids. Voilà, c'est fait par Emmanuel Guibert et Marc Boutavant. Voilà. Alors, en fait, c'est une série, donc il y a plein de petites histoires. Ariol, il y en a des dizaines hein, de petites séries. À chaque fois, il traite d'une thématique particulière. Là, c'est la thématique de la première rencontre avec son amoureuse quand on est tout petit. Mmh. Alors, vous vous rappelez, vous, de vos amoureux, vos premiers amoureux, quand vous étiez tout petit, quand votre maman vous amenait voir soit le petit garçon... À qui vous faisiez la bise tous les jours, ou la petite fille?
Ah non, ça se passait dans la cour de l'école avant.
Ouais, ah ouais.
Oui, mais ça vous est jamais arrivé que votre maman s'entende bien avec la maman de la petite copine que vous aimez bien et qu'on vous invite à passer soit un anniversaire, soit une après-midi avec cette petite adorée. Non, ça vous est jamais arrivé ça?
Toujours. Dû me débrouiller tout seul.
Au moins, tu sais ce qu'il faut remercier pour tes rencontres. Toi-même.
Alors là, en fait, il aborde la rencontre amoureuse et le fait que donc Ariol est amoureux. Donc, il faut tout remettre dans son contexte, en fait. Hein. Les personnages, en fait, sont des animaux hein, humanisés. Donc, la famille d'Ariol, ce sont des ânes. Voilà, avec ce qu'on peut y mettre derrière, si on veut. Ouais. Il y a quelques allusions quand même qui sont faites dans le bouquin, mais c'est un âne. Ah, on a un âne parmi nous, etc., etc.
Ouais,
et vrai. La famille donc de sa bien-aimée, en fait, c'est une famille de taureaux et de vaches, voilà. Avec le père qui est plus représenté sous la forme du Minotaure, puisqu'ils font aussi allusion au Minotaure et au texte de référence, voilà, sur l'Antiquité, sur. Et donc c'est intéressant la façon dont c'est traité, parce que c'est traité du point de vue de l'enfant qui se pose toute cette question. J'ose pas parler à la maman, j'ose pas la regarder. C'est la maman de mon amoureuse. Et cette maman de l'amoureuse, en fait, invite Ariol à passer une après-midi chez eux. Le papa l'amène avec un bouquet pour la maman, plus un petit cadeau, un petit livre que lui, bien sûr, n'a pas lu, que c'est la maman qui a choisi et qui va offrir à sa bien-aimée. Et du coup, de péripétie, en fait, il lui arrive à chaque fois une situation qu'il a vraiment du mal à gérer. Alors, la première situation, c'est qu'il monte les escaliers, il arrive devant la porte et là... il n'arrive pas à appuyer sur la sonnette parce qu'il tremble de peur. Et puis la lumière s'éteint. Du coup, il ne trouve plus la sonnette. Et au moment où il trouve la sonnette, en fait, il y a un énorme taureau qui surgit. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu veux? En fait, c'est le père. Donc le premier contact est difficile. Il bégaye, il ne sait plus quoi faire. Il est
tout
rouge.
La panique.
C'est la panique. Et là, surgit entre les jambes du père, son amoureuse qui est là et qui dit « Ah, mais c'est mon copain, il vient passer l'après-midi avec nous, etc. » Donc ils se mettent à table et puis dans la famille aussi le fils qui est à moitié punk en pleine adolescence qui s'appelle Waring le veau et qui lui en fait essaie de s'accaparer le petit copain de sa copine qu'il l'enferme dans sa chambre pour lui faire écouter du hard metal et il en peut plus. Après le père l'enferme dans sa bibliothèque qui est remplie de cloches et lui fait sonner les cloches, etc. Et du coup, il ne peut pas passer du temps. Et puis au moment où il voudrait retrouver un petit peu cette petite copine, il est l'heure de partir, quoi. Donc c'est à la fois plein de frustration, c'est à la fois la découverte aussi de ce premier amour. Et donc je pense qu'il y a tout ce qui se passe dans la tête d'un enfant, en fait, qui aborde cette question-là, quoi. Voilà.
Et ils arrivent
et en plus, elle n'est pas gentille avec lui. C'est-à-dire que quand elle... tu vois, elle lui dit à peine bonjour.
C'est une peau de vache.
Ouais, c'est une peau de vache. Ouais. De vachette. C'est ça. Et du coup, elle commence par lui dire, mais tu l'as pas lu le livre. Tu vois. Et bien sûr, lui, il l'a pas lu. Alors, il sait pas trop comment se débrouiller avec cette affaire-là. Donc, il lui dit, si, je l'ai lu, mais vite. Mais de quoi ça parle? Alors, en fait, elle lui dit, au bout de 3 minutes, ça y est, je l'ai lu. En fait, elle a vu que les images. Elle a vu que les images. Donc, bon, c'est tout plein de situations, mais dans lesquelles on se reconnaît étant enfant. Donc, pour les tout petits, c'est vraiment sympa. Parce que je pense qu'on a vécu ça à un moment de notre enfance, cette timidité, cette façon de vaincre sa timidité. Et en même temps, ça aborde aussi l'idée de la lecture. Donc là, par exemple, ils parlent beaucoup de ce bouquin à la fin, où ils disent que c'est bien de lire le Minotaure avec les enfants. Voilà, il y a des références. C'est assez sympa, quoi. C'est, voilà. Donc, chez Ariol, il y a quand même le chevalier cheval, un petit âne comme vous et moi, copain comme cochon. Donc, c'est vraiment une petite série qui est sympa à suivre. Ça se lit relativement vite. Voilà, on a le papa d'Ariol qui est un âne, la maman d'Ariol qui est une ânesse. Et puis, lui, c'est un petit agnon, quoi.
Et alors, c'est des questionnements qui vont se poser, du point de vue de l'enfant. Mais est-ce qu'ils ont des réponses au final? Est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que c'est sur la façon de se comporter, être respectueux quand on va chez la belle famille? C'est quoi qui est en fait souligné? Il y a quelque chose de précis derrière? Il y a une idée qui est bien précise de l'auteur?
Non, je crois pas. Je crois pas. Je crois que c'est simplement le fait de montrer que ce que peut vivre un enfant de 4-5 ans qui est exceptionnel, tu vois, de découvrir une première fois l'amour en dehors de son papa et de sa maman, parce que c'est quand même ça, c'est de l'affection. Alors on va pas parler d'amour, etc., mais quelque part c'est des sentiments. C'est la naissance des premiers sentiments, c'est tout ça. Et que ça, c'est partagé. C'est-à-dire l'auteur, tu vois, je ne suis pas le seul à vivre ça, et lui aussi il est timide, et lui aussi il n'ose pas lui parler à cette petite fille qui trouve très belle, etc.
Première boule au ventre, les mains qui tremblent un peu.
C'est tout ça. Ouais. Première humidité du front.
Ouais, la sueur. D'accord, ouais. Et celui-là, t'as bien plu. Comparé à l'autre, t'as plus emballé celui-là.
Ça m'a bien. Enfin, bon, j'ai pas adoré le graphisme, je trouvais ça sympa, mais voilà, bon, c'est une série. Les textes sont sympas. Voilà.
Ouais.
J'ai trouvé l'histoire assez sympa. C'est pas du tout gnangnan, quoi. C'est-à-dire, c'est pas une petite histoire pour les tout petits. C'est une vraie histoire de vie, racontée avec les mots d'enfant, mais plutôt vue par des adultes, par un adulte à qui c'est arrivé et qui raconte ça avec des mots d'enfant.
Ouais. Voilà. Et les caricatures des animaux ont l'air très, très intéressantes, par exemple, rigolotes aussi.
Ouais. Ça fait bizarre une chambre sans un seul poster de Chevalier-Cheval. Parce que pour lui, son héros, c'est le Chevalier-Cheval. C'est vraiment dommage qu'elle n'aime pas le Chevalier-Cheval Pétula. C'est le nom de la petite amoureuse. On pourrait y jouer tous les deux. Moi, je ferais le Chevalier-Cheval et elle ferait la princesse Pouliche. Ce serait trop bien. Donc, bon, quand on lit avec les yeux d'adulte, tu te marres, quoi. Mais en même temps, c'est Mimi, quoi. Et puis là, il s'imagine dans sa tête, au secours, Chevalier-Cheval. Oh, Ariol, je suis prisonnière de l'empereur Morodan, viens me délivrer. J'arrive tout de suite, princesse Pétula. Donc il s'imagine en prince, etc. Voilà, mais en fait, il rêve, quoi. Et elle lui dit, je parie que tu connais même pas le livre. Ah, essaye pas de voir mon livre. Et comment, je me rappelle plus comment il s'appelle. Et puis là, on entend, à table, ah oui, vite, ta mère nous appelle pour aller à table. Il essaye de fuir, quoi.
Sauvé,
quoi. Voilà.
Ouais,
c'est Mimi,
ouais,
et
moi j'adore.
Et je trouve que voilà, c'est une série qu'on peut acheter pour ses enfants, les lire avec eux, et je pense qu'il y a des questions qui viendront de la part des enfants, quoi. Mais comment t'as rencontré papa, et est-ce que t'avais des amoureux quand t'étais petit, etc.
Bah après, c'est une maison d'édition qu'on avait sur le stand, sur lequel on avait été au festival d'Angoulême l'année dernière, et ils expliquaient que vraiment le BD Kids là, ils sélectionnaient vraiment, et on avait interviewé donc un des autres auteurs là, qui faisait Avni, qui est un personnage un peu comme Ariol, mais avec des petits pouvoirs supplémentaires. Dans cette série, c'est des choses assez simples, c'est pas des messages aussi forts, par exemple, que le livre que t'as présenté tout à l'heure avait des thèmes vraiment marqués, mais c'est divertissant, c'est drôle, et c'est adapté après à chaque tranche d'âge, ouais. Voilà, ouais.
Ça, on peut lire 4-5 ans, quoi, pour les 4-5 ans, c'est rigolo, quoi.
Moi, ma fille, tu vois, elle a 7 ans, elle le lit sans difficulté toute seule, maintenant, et le petit accompagné, il le comprend.
Oui, c'est 3, ça.
24 ans. Et ça passe à la télé aussi, ça a été adapté en dessin animé. Ouais. Mais c'est moins...
Il
est difficile à... Enfin, je trouve qu'il n'a pas le même ressenti en dessin animé qu'en BD. Ouais.
Donc c'était Ariol, où est Pétula, qui a l'air très intéressant.
Et elle est où alors?
Dans sa chambre.
Ah.
Mmh. En fait, on s'aperçoit qu'à la fin... Il la cherche partout et en fait, elle est en train de lire le livre parce qu'elle dit j'ai vu que les images au début. Et après, je me suis mis à lire et là, c'est merveilleux tout ce qui est expliqué.
Wow.
Donc, c'est l'histoire du Minotaure en fait, qu'elle lit dans les toilettes. Et d'accord. En fait, elle était cachée dans les toilettes.
Ah.
Très bien.
Cool.
Je passe à un autre livre. J'enchaîne.
Vas-y.
C'est parti. Alors moi, j'ai lu Les Petits Poilus. Je ne sais pas si vous connaissez, ouais. il y en a plusieurs.
C'est
une
grosse puce noire, là.
C'est exactement ça. Alors, le mien, c'était super poilu.
Ah.
Alors, juste avant, pareil, je vais faire le petit descriptif que j'avais trouvé. Un gros nez rouge, un air farfelu, c'est petit poilu. La bonne recette pour grandir d'un poil, prenez un personnage mignon, attachant, plongez-le dans des univers fantasmagoriques, faites-lui vivre des aventures drôles et enrichissantes, puis parsemez le tout d'une couleur pop et acidulée. Voilà, c'est prêt. Les histoires de petits poilus se dévorent à pleines dents et sans modération. Voilà, donc c'est un peu pour l'esprit du livre. Je vais commencer par le petit résumé de l'histoire. Dans ce livre, en fait, il y a zéro dialogue. Il n'y a pas du tout de dialogue, c'est que des images. Donc en fait, c'est un petit garçon qui rencontre par hasard un super-héros. Grande cape, une belle allure, plein de muscles. Sauf que ce super-héros passe son temps à se regarder dans un miroir. Même quand il faut sauver pile poil un petit chat pris au piège. Alors Petit Poilu prend son courage à deux mains, grimpe à l'aide d'un système de ventouse à la rescousse du chat et finit par le sauver. Mais quand il retourne voir son idole, le super-héros, il découvre la supercherie. En fait, le soi-disant super-héros est en réalité super-arnaque. Donc, je ne vais pas en dire plus. Mais voilà. Donc
c'est
pour,
une métaphore sur les comics américains qui passent à la
télé. Aussi.
C'est ça
aussi.
C'est la super-arnaque.
Oui, oui. Ça, c'est un autre débat après. Là. Ah,
j'ai l'impression que tu n'es pas d'accord.
si, en plus, entièrement, c'est pour ça. Mais là, on est toujours dans les BD jeunesse.
Alors, Super Poilu, qu'est-ce qui lui arrive?
Ouais, alors Super Poilu, en fait, du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure. Dans ce livre, il n'y a que des dessins. C'est plein de petites vignettes, mais sans dialogue. Et bon, c'est pas nouveau, mais c'est vrai que sur chaque vignette, on sent vraiment, comparé à ce que tu disais tout à l'heure, Valérie, vraiment toutes les expressions et quel sens l'auteur a voulu donner au personnage ou à l'histoire. Donc, pour le coup, là, c'est vraiment bien fait. Il est très agréable à feuilleter. Alors, par contre, vu qu'il n'y a pas de dialogue, etc., c'est vrai qu'en 2 minutes, c'est un peu plié, quoi. C'est le seul petit reproche, à la limite, qu'on pourrait lui faire. Et voilà. Après, donc, c'est aux parents, bien entendu, avec le lecteur, avec, du coup, l'enfant, de lancer un petit peu les débats, du moins la petite discussion à la fin, quoi, une fois qu'on a terminé le livre, pour détailler peut-être un peu plus l'idée qu'a voulu faire partager l'auteur. C'est un peu sur les stéréotypes. C'est aussi l'idée que le courage, la force, ça appartient pas seulement à la petite combinaison slip rouge, collant bleu, mais voilà, mais voilà, le courage se puise en chacun de nous, c'est surtout le message qu'il veut faire passer, qu'on soit petit, grand, gros, mince, etc. Et voilà, à la fin, il y a quand même un petit texte qui résume l'histoire, avec lequel on peut reprendre un peu plus en détail avec son enfant pour accentuer certains points, mais pareil, les dessins aussi très, très mignons. Alors toi, tu les connaissais déjà, Valérie, moi je le découvrais un petit peu aussi. Il est très, très rigolo, le petit personnage super arnaque est un petit peu attachant aussi. Voilà, en fait,
c'est des dessins très ronds et très simples aussi, hein, très en couleur. Hein.
Voilà.
C'est très, 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 très coloré.
Mais après,
c'est assez joli, hein, c'est assez joli.
Très simpliste, mais on arrive quand même à bien déchiffrer sur chaque vignette. La moindre expression, la compassion, etc. Voilà, c'est des choses qui sont parfois dures à mettre en dessin, tout simplement. Et là, c'est bien, bien réussi. Et
il y a un petit message à la fin du livret.
Oui.
C'est le petit message qui fait grandir d'un poil. Qui est qui? Qui est vraiment quoi? Qui a envie de faire croire qu'il est ci ou ça? Super Poilu est une histoire énergique, physique et tendre sur le poids de l'apparence, les faux-semblants et le plaisir d'être soi-même.
Voilà, exactement. Alors du coup, c'est des petites questions qu'on peut poser après à son enfant pour voir un peu où il en est par rapport à cette histoire. Et voilà, mais vraiment le message global, c'est vraiment cette idée d'être soi-même et qu'on est tous un peu en nous des super-héros, pour exagérer un peu. Et voilà, tout simplement de croire en soi et y aller de l'avant, prendre son courage à deux mains. Et voilà, tu es en train de le feuilleter, c'est le moment sympa où Super Arnaque finit aussi par mettre de côté sa combinaison et reste lui-même. C'est un petit garçon un peu grassouillé.
Ouais, ça, c'est ça, il est très bon.
C'est ça, c'est, il a une grande cape.
Il a pas de lunettes. Hein.
Ah ouais, mais il est tout rose, Ludo. Comme...
Tu vois Ludo partout.
Déjà,
hein,
en slip.
Ah, j'ai pas vu un slip.
Tu as vu en slip?
Et non.
Si, il y a des petits bourrelets sur.
Ça
Regarde.
Là, c'est plus qu'un petit bourrelet, quand même.
Ah oui, d'habitude, il a la ceinture qui fait croire qu'il a les abdos. Mm-hmm. Il est sur des échasses.
Mais comme celui Superman, cap. Il met le slip par-dessus le caleçon. Oui. Ça, je sais pas, c'est une manie qu'ils ont.
C'est,
hein.
ouais.
Les super
c'est traditionnel,
héros.
Ça.
Regarde, il a le slip en-dessus de son collant. Comment tu veux après expliquer à tes enfants l'ordre des choses
on s'habille?
Mais ouais.
Alors le petit passage intéressant aussi, du coup, c'est que Pile-Poil joue le jeu et il va à son tour prendre une tenue, un costume de super-héros, etc. Et quand il faut sauver non pas un chat mais un petit chien, le fait qu'il soit habillé de cette manière en fait lui pose de gros problèmes. Donc du coup.
Oui.
Il redevient lui-même et c'est là qu'il s'en sort, grâce à l'aide de Super Arnaque qui est redevenu le petit garçon qu'il a toujours été.
Bien.
Donc voilà.
Une belle petite morale.
Très sympathique aussi.
C'est vrai que les dessins sont très sympas.
Ouais, après voilà, le seul truc qu'on peut lui reprocher un peu, c'est que c'est lu rapidement, ouais. Lu simplement parce qu'il n'y a pas justement de dialogue, et que c'est que des petites images, mais qui sont très sympas, effectivement. Voilà pour mon deuxième livre. Pauline veut enchaîner.
Eh ben ouais, parce que moi j'ai un super coup de cœur là aujourd'hui.
Ah,
ouais.
Super.
J'ai Le Grand Méchant Renard de Benjamin René ou Renner, je sais pas trop comment le prononcer, chez Shampoing. Donc Benjamin Renner, vous avez vu sûrement certains de ses longs métrages, notamment Ernest et Célestine, l'adaptation des bouquins en film.
Trop bien.
Et ben voilà, donc c'est lui, donc d'accord. C'est déjà hein, ça renvoie déjà pas
un
mal.
Un point ouais. D'avance.
Je vais faire vite sur lui parce qu'il y a pas mal de choses à dire, mais voilà, pour vous le mettre en place un peu, c'est quelqu'un voilà qui est sorti des Beaux-Arts et au lieu de se lancer dans la BD comme c'était prévu, il s'est plutôt lancé dans la réalisation. Il a fait pas mal de courts métrages. Et donc Ernest et Célestine. Et là, donc, il est retourné à la BD d'abord à travers un blog où il fait vivre des animaux de la ferme. C'est des petits strips, hein, des petites bandes, voilà, des petits passages rigolos. Et donc de ce blog, il a tiré Le Grand Méchant Renard. Alors c'est l'histoire de Renard. Il est, je cite, il est aussi costaud qu'une huître. Il a autant de charisme qu'une limace séchée dans un pot de sel. Et il est au moins aussi féroce qu'une tortue anémique à la retraite. Bref, un bon grand méchant renard hein, qui doit bien être cousin avec le coyote, je me suis dit, peut-être.
Oui.
Bref.
On connaît tous.
Voilà. Il tente régulièrement d'aller manger des poules dans un poulailler qui est gardé par un chien de garde qui est aussi assez top du top. Hein. Il est vraiment paresseux, sûrement syndiqué et qui passe beaucoup de temps à lire les règlements de voilà, comment ça fonctionne le travail de chien.
Paresseux syndiqué, c'est un synonyme.
Comment ? Non, mais c'est parce qu'il se cache beaucoup sur la lecture des textes, derrière la lecture des textes, sur son voilà. Et donc ces deux acolytes, le cochon qui aime beaucoup cultiver son jardin et le lapin qui est plutôt un gros bêta mais qui est très drôle. Voilà.
Ils sont tous
ils ont tous un caractère d'enfer.
Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire.
Déjà, ça envoie dès le début, mais c'est punchy, c'est vachement sympa. Et donc voilà, Renard, il essaye de chasser là-dedans, malgré cette garde rapprochée, peu efficace. Il n'arrive jamais à manger une poule, à lui en mettre plein la figure, et il repart tout souvent avec un cochon qui lui donne des navets pour couper sa faim. Quoi. Il repart vraiment avec pas grand-chose, jamais la moindre poule.
Pas rassasié.
Non. Et un jour, au coin de la forêt, il rencontre le loup et lui dit « Bon, écoute, loup, donne-moi des conseils, j'y arrive pas. » Le loup, lui aussi, se mangerait bien une petite poule, mais lui, il peut vraiment pas rentrer parce que pour le coup, dès qu'il s'approche de la ferme, le fermier sort avec son fusil et essaye de le canarder. Donc, il monte un plan à deux. Il lui dit « Bon, mais écoute, toi, renard, tu peux rentrer. Tu rentres dans le poulailler, tu prends des œufs et on va les couver et puis bah, on les mangera une fois qu'ils seront grands. » Ni une ni deux, renard est parti, il va chourer des œufs. Il se retrouve à les couver. Mais ce à quoi il n'avait pas pensé, c'est qu'apparemment, un poussin, quand il sort de l'œuf, la première personne qu'il voit, il pense que c'est sa maman. Voilà. Et donc, Renard se retrouve avec ses petits poussins. Et c'est franchement très, très drôle. Voilà, c'est à la fois plein de tendresse. On a de l'humour dans les textes et aussi dans les images, dans les illustrations. C'est un format. Ouais, voilà, Renard, il est extra déjà. Les personnages, c'est présenté.
D'accord.
Ouais, il a toujours ses grands yeux un peu ébahis là. Il est impressionné partout, par le loup, par les poussins, par les poules. Et puis on sent toujours qu'il est dépassé et il est franchement, c'est très très drôle. Le format est sympa. On n'a pas les cases encore. Là, on est dans un format BD particulier. On n'a pas de cases, on n'a pas de bulles non plus. Hein, les textes sont
écrits comme ça, sont
ouais.
Juste avec un trait pour dire voilà.
C'est voilà, qui pour montrer qui parle quoi, tout simplement.
C'est des scènes isolées un peu en fait, ouais. Sans bordure, quadrillage, etc. Ouais.
Mais c'est un journal d'aquarelle en plus. C'est sympa. Hein.
Ouais, je pense que c'est de l'aquarelle. Et non, franchement, vous allez vous marrer. Il a eu le Fauve à Angoulême, donc ça plaît aussi aux enfants. Le prix Fauve, c'est un prix qui est décerné par des enfants. J'avais noté, c'est 8-12 ans, donc ça marche autant chez les enfants que je pense chez les adultes, parce que moi, ça m'a... Enfin, j'ai passé un super bon moment, je me suis éclatée. C'était génial.
Et ça a l'air super. Ouais.
Et est-ce qu'il finit par le manger, le poussin ?
Ah, à votre avis. Hein ?
Ce qui m'impressionne, c'est la taille des poules. Elles sont plus grosses que le renard.
Eh ben oui, mais parce qu'il est vraiment gringalé, le pauvre renard. Enfin, on a pitié de lui, le pauvre.
Ouais, c'est ça.
Dès le début, on se dit, oh là là, mais sa vie est tellement dure. Et ouais, non, très très drôle, je le conseille, le méga coup de cœur. Quoi.
Ouais, et puis il y a des textes, du coup, il est en train de. Il veut chourer un œuf sous la poule, donc il fait un espèce de.
De levier
avec un manche à balai, puis, regarde la, puis la poule le regarde comme ça avec ses grands yeux, qu'est-ce que tu fous? Et puis lui il fait. Alors là, tu vas rire, c'est pas du tout ce que tu crois. Donc il y a des allusions un peu comme ça. Et puis après, il rentre dans la cage du chien, il se met avec le chien, il fait. Le chien lui dit il va falloir qu'on parle tous les deux. Voilà, c'est rigolo, effectivement.
Ah ouais, c'est extra. Ouais. Mais allez voir son blog, c'est. Enfin, j'ai pas noté l'adresse, mais c'est sous le pseudonyme Reinek. Lui-même dit que c'est imprononçable, hein, donc je me permets de mal prononcer.
Ouais, sinon tu mets blog de Benjamin Reiner.
Voilà, ouais. Et vous allez bien rigoler, c'est très sympa.
Parfait, le grand méchant renard.
Ouais, le grand méchant renard. Ouais.
Benjamin Reiner, et c'est aux éditions Shampoing.
Ouais.
Je connaissais pas, on a déjà parlé des éditions Shampoing en 30 émissions.
Non.
Ça me disait rien non plus. Mmh. Ouais.
C'est le premier fait avec des œufs. Shampoing aux œufs.
Et puis Héloïse n'est pas là pour nous en parler, c'est bien dommage.
Non, on dirait le logo, c'est le logo Vigipirate, non, sur le côté. Non, on n'avait jamais. C'est ça. Petit triangle rouge.
Oui, il y a un petit côté Vigipirate, peut-être, ouais.
Mais c'est non, c'est chouette, ça a l'air super.
Ouais.
Parce qu'Ernest et Célestine, c'était pas aux mêmes éditions.
Alors lui, il n'a pas fait les albums Ernest et Célestine, okay, il a fait l'adaptation en film. Okay. J'ai pas noté, je sais pas, les éditions d'Ernest et Célestine. Donc voilà.
Très bien, merci Pauline. Tu veux enchaîner Valérie ?
Non, mais je sais pas, Nico me faisait des grands gestes.
Non, t'en avais un autre.
Ah, mais c'est la Macarena que tu dansais, excuse-moi, j'avais pas...
Bah oui,
non, Louise m'en avait passé deux autres, mais...
Bah juste pour les citer peut-être.
Ouais, pour les citer, il y en a un qui est pas mal du tout, c'est Actes Sud Junior BD, ça a été dessiné par Museau, et pareil, je vais faire appel au plus ancien, peut-être, Placide et Museau, ouais. Chez Piffé Hercule et tout ça.
Ouais,
voilà, ben c'est Museau, de Placide et Museau.
Merci, c'est tout.
Ça. Voilà, c'est tout. Voilà, donc il a dessiné, c'est pareil, c'est un peu comme tout à l'heure, ce que tu disais, Corentin, c'est une petite série de livres avec des thèmes. Et là, c'est « Je ferai une colère si je veux ». Et ça tombe bien parce que j'ai mon petit dernier qui s'est mis à faire des colères la semaine dernière. Ah. Donc j'ai testé le livre. Et bien ça marche.
Ah.
Non, c'est un petit garçon qui fait une colère. Il est en train de jouer donc, aux cartes avec sa sœur. Et ben, forcément, il perd. Et là, il y a un petit diable qui apparaît sur son épaule qui fait « Allez, vas-y, mets-toi en colère, jette-les ces cartes ». Il ballarde les cartes, il claque les portes, il gueule, il fait une colère. Et il y a le petit ange qui dit « Tu sais, tu devrais pas », qui arrive, qui dit « Tu devrais pas faire des colères comme ça parce que maman avait dit qu'on irait au zoo et tu risques de pas y aller ». Effectivement, la maman qui explique à son fils que ben, puisqu'il fait des colères et qu'il est tout vilainasse, il ira pas au zoo.
Privé de zoo.
Donc il est assis sur son lit, petit ange, petit démon qui lui parle, et puis le petit démon il lui dit « Bon allez, vas-y, crie, hurle, c'est pas grave, attends, on est entre nous ». Et le petit ange, et puis il dit en plus tous bien, elles ont été manger une glace sans toi. Et tu vois la colère qui monte. Et le petit ange qui dit oui, mais tu sais, si tu avais accepté de perdre et si tu avais été bon joueur, peut-être que tu aurais pu aller au zoo manger une glace toi aussi. Et à la fin, la petite fille et la maman rentrent du zoo avec des bonbons pour le petit frère. Et là, il y a le petit, il prend le petit diable, le petit garçon. Il va au WC, il jette le diable dans le WC et le diable disparaît.
Ah,
et il mange ses bonbons. C'est super mignon.
Ça, c'est pour des enfants chrétiens.
Ah bon ?
Et alors, pour des juifs, tu.
Comment je. Mais je sais pas, j'ai pas encore.
Des musulmans.
C'est pourquoi chrétien, le petit diable, le truc ? Ah, mais je sais pas, pour moi, c'est le gentil, le méchant.
C'est des représentations chrétiennes, ça.
Ouais.
Le diable, je me suis.
Oui, mais c'est vrai que là, on voit pas le côté religieux, ouais.
Bah, j'ai cherché dans la Torah, voir si on peut éditer un livre sur le fait d'être gentil ou pas gentil.
Non, mais ce qui serait intéressant, c'est de savoir. Quelles sont les représentations ? Est-ce qu'on a les mêmes choses dans d'autres pays, quoi ?
Ouais,
est-ce que les représentations du mal et du bien, est-ce que c'est le diable ?
Sont les mêmes,
sans doute, sans doute.
Oui, mais est-ce qu'ils sont représentés ? Par quoi sont représentés ? Parce que honnêtement, là, moi, j'ai rien vu. Pourtant, généralement, c'est les signaux qui me sautent aux yeux, les signaux religieux. Non,
mais en plus, là, c'est une tradition ancrée.
C'est très utilisé.
Ouais, là, c'est.
Cette symbolique est très très utilisée dans les livres.
Et c'est vrai que du coup, moi, je l'ai lu brut, tel quel, sans dire « Je vais te lire un livre qui nous fera discuter des colères que tu fais ces derniers temps. » Non, je l'ai lu tel quel et il rigolait. Et puis, il comprenait pas ce que c'était le petit diable et le petit ange. Et Mais il a vu que c'était le méchant. Il y avait eu un film comme ça sur les émotions avec le rouge colère, le vice-versa. Je sais pas si voilà. Et c'était les émotions. Et donc, du coup, très vite, rouge
d'accord.
En plus.
Oui, ça, je l'ai vu,
le rouge, c'est la colère. Ouais. Donc, automatiquement, ouais. Tu sais ouais. Que. Voilà.
Oui, c'est très, très bien.
Donc ouais. C'est, voilà, c'est pas mal. Du coup, je jetterai peut-être un coup d'œil aux autres. Après, il y a Je suis un peu timide, mais voilà. Après, je suis un peu jaloux et je m'ennuie, je sais pas quoi faire. Et je pense d'accord. Que ça peut être sympa. Et donc, c'est Museau de Placide et Museau.
On est un peu pris par le temps. Du coup, je vais dire un petit mot sur mon dernier livre qui s'appelait Détective Popotin mène l'enquête. Et voilà, en fait, il fait partie des livres-jeux. Il y a une participation qui est demandée en fait, au lecteur. Il pose des petites questions, des petites énigmes, etc. Ou des labyrinthes auxquels il faut trouver la sortie, etc. Et en fait, c'est donc Détective Popotin. Je flaire une grosse affaire. C'était assez rigolo, mais c'était quand même pour les plus petits.
Ouais.
Plus petits que même voilà, les autres qu'on a pu lire jusqu'à maintenant. Et juste pour le petit mot, ça marche super bien en fait au Japon.
Ouais.
C'est à l'origine de là-bas, ils sont deux Japonais à avoir travaillé là-dessus. Et ça a même fini en application pour smartphone, etc. Et donc les Japonais se ruent là-dessus et c'est répondre, trouver les réponses aux petites énigmes de Détective Popotin. Mmh. Et voilà, donc c'est du livre jusqu'à la poche avec le smartphone, c'est suivi partout au Japon. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait le même engouement en France, mais voilà. Il est sympa aussi, on apprend quelques petites choses. Pour l'enfant, c'est très sympa. Il y a cette participation qui tient éveillé, qui tient en haleine, quoi, qui est assez rigolo.
C'est un livre pour les enfants dans le vent.
Voilà.
Oui.
Voilà, exactement. Et oui, la question du coup que tout le monde se pose, c'est mais comment fait-il pour interpeller et arrêter le coupable.
C'est ça.
Il lui pète tout simplement au visage.
Non.
Et si.
Oui, parce que c'est quand même une tête de.
C'est une tête de cul.
Quoi. Ouais. C'est pas sorti. Moi, j'ai pas osé le dire. Mais...
Ah oui.
Non, mais c'est une paire de fesses en fait.
Une paire de fesses. Exactement, une paire de fesses à la place de la tête.
C'est étonnant que c'est plus au Japon, ça.
Ouais. Ah ben non, justement. Non. C'est vu qu'il y a une paire de fesses sur la tête, ça plaît au Japon. C'est.
Ah bon.
C'est l'inverse. Ah oui, les Japonais, ils sont vachement.
Ils sont friands de ce genre.
Carrément, ouais, carrément.
Bon, c'est vrai qu'on retrouve le graphisme japonisant, hein, des mangas, BD, tout ça.
Voilà, rigolo, mais d'accès quand même accès très, très jeune.
C'est vachement agressif, non, enfin, tous les trucs un peu prout, pipi,
oui, caca,
non. J'avais peur, en fait, mais il n'y en a pas beaucoup. Honnêtement, il n'y a que ce passage-là, c'est au moment de neutraliser, en fait, le coupable.
Ouais.
Où voilà, l'odeur irrespirable, c'est vraiment une infection, etc. Ça l'oblige à se rendre. Et à la fin, d'accord. Il dit à sa cliente, t'as vu comme je l'ai soufflé?
Oh.
Et c'est, non, mais honnêtement, c'est voilà, les seules allusions qu'il y a. Après tout le reste, c'est pas forcément, à part un peu l'idée du flair incroyable, etc. C'est pas très orienté dessus non plus. Quoi.
Ouais.
Mais rigolo, petite, c'est presque interactif, là, donc c'est sympa. Très sympa.
Alors, la version d'édition, c'est illisible, hein, c'est en japonais.
Non. Alors, c'est Troll, du coup. Troll, tu l'as...
Ah, si, c'est Collection, page. C'est écrit Collection.
Et la Collection, c'est
John.
Voilà, exactement, pour la Collection.
Voilà, non, ça a l'air, oui, ça a l'air vraiment marrant, ouais. Voilà.
Oui, non, il est sympathique, hein, il est sympathique.
Eh bien, oui, plus, ben, finalement, on avait plein de choses à dire. Moi, j'en avais encore un, mais non, mais je vais le taire, en fait.
Ouais,
je vais rien dire. C'était Shaker Monster. Mais bon. Voilà.
Moi, j'avais un super magazine qui s'appelait Club Artichaut pour les gens qui ont entre 7 et 13 ans d'âge mental.
Ah, oui, mais c'est...
Ben, ça allait nickel, là. J'ouvre le passe. C'était un coup de cœur d'Héloïse.
C'est un bel univers, quand même. C'est vrai qu'il se crée énormément de choses très, très différentes dans des univers graphiques à chaque fois qui sont extrêmement variés, colorés ou des formes aussi d'expression, sans cadre avec cadre. On est dans...
Ouais.
On change d'univers et pourquoi pas, je trouve que c'est bien aussi avec les enfants de montrer des choses très très différentes.
Oui, c'est un petit renouveau.
Ah oui,
aussi.
C'est riche, ouais.
Mais en général, la littérature jeunesse, c'est extrêmement riche.
Ah oui.
Mais c'était parfait, merci beaucoup pour cette belle émission, on se retrouve
merci
dans deux semaines.
Merci à toi, Corentin.
Est-ce que vous connaissez le sujet?
Non, Héloïse a dit que ce serait une surprise pour nos auditeurs, mais qu'on allait se régaler les oreilles.
Ah, parfait, super. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir suivis. C'était la 30e émission du Bout de la Lorgnette. Et on vous remercie énormément. Passez une belle après-midi.
Bon week-end. Salut tout le monde.
Bon week-end à tous.
Au revoir.
La lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seuls les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.